Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur maudit, l'auteur le plus adapté au cinéma, mais qui ne verra aucun de ses films. Aujourd'hui, je vais vous parler de Philip K. Dick. Philip Kindred Dick et sa sœur Charlotte naissent le 16 décembre 1928 à Chicago. Charlotte meurt de malnutrition le 26 janvier 1929. Ce qui pourrait passer pour une simple, entre guillemets, conséquence de la pauvreté au sein d'une famille comme tant d'autres à l'époque, aura des conséquences tout au long de la vie de Philippe. Alors qu'il ne devrait en avoir aucun souvenir, il n'a pas 2 mois quand le décès survient, il ressentira constamment sa présence, comme un double en lui. Il parlera même d'une psyché autre que la sienne, celle de sa sœur. La psyché désigne les éléments conscients et inconscients propres à chacun, l'âme en quelque sorte. Il n'a même pas 1 an quand a lieu le krach boursier de 1929. Mais durant sa prime jeunesse, il ne s'en rendra pas vraiment compte. Il dira que la morosité ambiante était due, je cite, au fait que toutes les voitures étaient noires. Philippe est très jeune quand ses problèmes psychologiques se déclarent. Il n'a que 7 ans. Ce qui va commencer à perturber son parcours scolaire, lors de sa 10e année, il manque déjà 1 mois d'école. Difficulté qui ne l'empêche pas de faire ses propres découvertes. Musicale d'abord, avec une révélation en écoutant la 5e symphonie de Beethoven. Viendra ensuite la littérature non mimétique. D'après Gregor Tebici, universitaire polonais, la littérature non mimétique est une littérature qui ne se fonde pas sur une imitation de la réalité. Définition récente et assez pertinente de la science-fiction. Ce genre de lecture lui permet de s'échapper d'un quotidien parfois lourd à supporter. Il vit seul avec sa mère divorcée et son agoraphobie de plus en plus marquée lui rend le monde extérieur inaccessible, voire hostile. C'est avec les livres de l'univers du magicien d'Oz qu'il se fera les dents. Et c'est à 12 ans qu'il va s'attaquer à la science-fiction par le biais des pulps. Ces magazines aux couvertures aux couleurs criardes et aux papiers de mauvaise qualité. À leur âge d'or, ils étaient environ 150 à paraître tous les mois. Il y découvrira certains auteurs qui seront plus tard de grands noms de la SF. Heinlein, Asimov, Van Vogt. Cette même année, les États-Unis entrent en guerre contre les forces de l'Axe, ce qui va marquer Philippe. Déjà que le monde en paix le met à mal, alors imaginez vivre dans un pays en guerre. Malgré tout, il commence à écrire de petits textes au sein de la Berkeley Daily Gazette. À 14 ans, il trouve un petit boulot chez un réparateur de radio où il y restera pendant 8 ans. Les années suivantes, il fréquente le lycée de Berkeley de manière irrégulière à cause de son agoraphobie. À 18 ans, il quitte définitivement le lycée. Mais ça ne l'empêche pas de se cultiver pour autant. Il va lire Maupassant, Proust, Kafka, James Joyce et aussi Jung. À dessein, car il suivra une psychothérapie auprès d'un analyste jungien. 1947 verra la rédaction de sa première nouvelle destinée à la publication. Elle le sera en 1987. On ne peut pas forcément être bon du premier coup. En 1948, il épouse Jeannette Marlin. Ils resteront ensemble pendant 6 mois. En 1949, il commence à suivre des cours de philosophie, mais ses phobies le rattrapent et il doit y mettre un terme. En 1950, il épouse Cléo Apostolides, membre du Parti Socialiste des Travailleurs. Ce n'est pas un souci en soi, sauf que le sénateur McCarthy commence à faire parler de lui et de sa haine viscérale du communisme. La même année, il commence un roman qui ne sera pas de la science-fiction. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Il parvient à vendre ses premières nouvelles à partir de 1951. C'est à partir de ce moment qu'il se considère comme un véritable auteur. En 1952, il écrit la nouvelle « Nouveau modèle » qui sera adaptée au cinéma en 1996 sous le titre « Planète hurlante ». Cette adaptation sera la première d'une longue liste. L'année suivante, deux autres nouvelles sortent et elles seront aussi adaptées sur grand écran, « Impostor » et « Paycheck », avec des fortunes diverses. Impostor est un film à petit budget, mais efficace. Paycheck est une œuvre plus ambitieuse, mais John Woo, le réalisateur, est coincé par le studio dans les choix artistiques et qui plus est n'est pas fan de SF. Un comble. D'où un résultat moyen. 1954 voit l'achèvement de son premier roman, Loterie solaire. Dans ce livre, on découvre une société du 23e siècle où le maître du monde est désigné par le biais d'une loterie. Cette même année, il se rend à la 12e World Science Fiction Convention malgré son agoraphobie et se verra en quelque sorte adoubé par la communauté des auteurs professionnels de SF. Toujours en 1954, il produit 28 nouvelles, dont une d'entre elles sera adaptée sous le nom de L'Agence en 2011. L'année suivante, il va plus se tourner vers la rédaction de romans plutôt que de nouvelles. Nouvelles qu'il écrivait à grand renfort d'amphétamine. Philip K. Dick a la réputation d'un écrivain drogué. Oui, mais pas n'importe quelle drogue. Parfois, on lui attribue une consommation régulière et élevée de LSD. Il n'a confirmé qu'une seule prise de cette substance, par curiosité semble-t-il, et aussi parce que c'était à la mode. Non, Philippe, lui, c'est surtout les drogues légales, entre guillemets. Un décontractant musculaire pour la tachycardie, des amphétamines contre l'agoraphobie et pour stimuler son cerveau. Il en consomme des quantités industrielles. Et c'est sans grande surprise que, mentalement et physiquement, il en subit les effets. Paranoïa aiguë, entre autres, mais aussi des douleurs à la poitrine à 32 ans. Mais sans que cela ne le fasse baisser sa conso. C'est tout de même ironique. Dans les années 50, la SF nous annonçait que nos repas, mais pas que, seraient constitués de pilules. C'était un peu un remède à tout. En 1956, il se consacre exclusivement au roman. Toutefois, quelques nouvelles étaient restées dans les tuyaux, comme par exemple Minority Report, adapté par Steven Spielberg en 2002. Le choix du roman au détriment de la nouvelle est surtout économique. À l'époque, il touche $35 pour une nouvelle, alors que pour un roman, il peut toucher $750 et un pourcentage des ventes. Il faut bien faire bouillir la marmite. Durant les années qui suivent, il persévère dans l'écriture de romans non SF, mais tous les manuscrits lui sont retournés par tous les éditeurs sollicités, près de 25. Il en gardera un goût amer. Il était persuadé de pouvoir percer dans le roman classique pour enfin s'échapper du carcan que représentait pour lui la littérature SF. C'est un peu résigné qu'il se remettra à la SF, en essayant d'intégrer une partie « réaliste » entre guillemets, pour en partie assouvir son rêve brisé. C'est ainsi qu'en 1961, il commence l'écriture d'un roman qui va marquer un tournant dans sa carrière. Le Maître du Haut-Château. Une uchronie. Une uchronie est un récit de fiction qui se base sur des événements passés et qui n'ont pas suivi le cours qu'on leur connaît. Dans le cas du Maître du Haut-Château, ce sont les Allemands et les Japonais qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et qui se partagent les États-Unis. Or, il existerait un livre, distribué sous le manteau, une véritable provocation pour les forces d'occupation. Pourquoi ? Parce qu'il raconte la victoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Une véritable mise en abîme, une uchronie dans l'uchronie. En 1964, il écrit « Les clans de la lune Alphane » qui prend place sur une lune d'Alpha du Centaure où se trouve un hôpital psychiatrique dont les occupants, livrés à eux-mêmes, s'organisent en fonction de leur pathologie. Il sera aidé dans la rédaction de ce livre par sa connaissance intime de certains de ses troubles mentaux. Comme dans un autre ouvrage, « Glissement de temps sur Mars », où l'on retrouve un jeune garçon autiste qui aurait don de prémonition. Ce sera un des grands thèmes de Philip K. Dick, la perception de notre monde par un biais différent. Lui-même affecté par des pathologies psychologiques, il pourra aisément retranscrire comment il appréhende notre « réalité », entre guillemets. 1966 verra la naissance d'un des textes les plus représentatifs de son œuvre. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Mais ça, je vous en reparle un peu plus tard. La même année sort Ubik, à classer au même rang que les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Ce livre est souvent considéré comme le point d'orgue de la carrière de Dick. 1972 sera une année compliquée pour Dick. Après une tentative de suicide, il se retrouve interné durant 3 semaines. Point bénéfique, il en ressortira débarrassé de son addiction aux amphétamines. L'année suivante, il commence l'écriture de Substance Mort, roman adapté lui aussi au cinéma en 2002 par Richard Linklater, sous le titre A Scanner Darkly. Le studio de cinéma United Artists achète les droits du roman Les Androïdes pour une adaptation au cinéma. En 1974, encore sous les effets d'un anesthésique après une opération, Dick est sujet à une hallucination. L'art romantique s'intègre à la Californie des années 70. Et Philip devient Thomas, un chrétien de l'époque. Cet épisode hallucinatoire va durer près d'un an et laissera des traces. Il couchera sur le papier tout ce qu'il va ressentir et ce dont il sera le témoin. Ce sera l'exégèse de Philip K. Dick, un recueil qui commence en 1974 jusqu'à sa mort, où il va relater toutes ses expériences et visions. Depuis sa jeunesse, il est passionné de philosophie et de théologie. Cela lui permettra d'analyser ce qui lui arrive. Il est aussi partisan du gnosticisme. Le gnosticisme est un mouvement de pensée qui prétend que les humains sont des âmes divines, emprisonnées dans un monde matériel par un dieu mauvais, le démiurge. 1977 verra Dick sortir des États-Unis pour se rendre au Festival international de science-fiction et de l'imaginaire de Metz, où il lira un texte sur son expérience de 1974 et de sa vision du divin. En décembre 1980, on lui montre le scénario du film qui doit être adapté du roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Et il ne l'aime pas. Du tout. Une nouvelle version lui est proposée en août 1981 et là, il est emballé. De plus, il a vu les premiers effets spéciaux du film et il apprécie. En décembre 1981, il est invité à une séance de cinéma privée pour visionner 20 minutes d'extrait. Il en sort enchanté. Pour la petite histoire, après la séance, il aurait dit « C'est une belle trahison. Ce sera un éternel débat que l'adaptation d'un livre sur petit ou grand écran. Ce qu'on y voit, c'est la version du réalisateur. Et cette proposition ne sera pas forcément, pas totalement en accord avec celle que l'on s'est faite. Chacun a sa vision. Quand on lit un livre, on se représente avec plus ou moins de détails la scène qu'on lit. On imagine une ville futuriste, l'aménagement d'un vaisseau, l'aspect physique, la voix d'un personnage. Et parfois, le réalisateur a une version proche de la vôtre ou une qui vous séduit. Ce film qui a séduit Philip et qui est adapté du roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» c'est Blade Runner. Le film sort le 25 juin 1982 aux États-Unis. Malheureusement, Philip ne le verra pas. Il décédera le 2 mars. Ses cendres seront enterrées auprès de sa sœur jumelle. Celle auprès de qui il n'aurait vécu que 10 mois, celle qui l'accompagnera toute sa vie, celle qui l'aura hanté toute sa vie. Philip K. Dick aura été un auteur prolixe, 45 romans et 120 nouvelles. Il aura, comme le dit une expression, eu le doigt sur le pouls de l'Amérique. Bien qu'agoraphobe et donc peu enclin à sortir de chez lui, il aura une réelle acuité sur la société américaine d'après-guerre et jusqu'aux années 80. Ses accointances avec les milieux de gauche seront mal vues au temps du maccartisme et de sa chasse aux sorcières. De cette période a pu naître un sentiment de persécution. Sa paranoïa lui a inspiré des œuvres où le totalitarisme est à l'œuvre, comme dans Radio Libre Albemus. Philip K. Dick a une réputation d'écrivain drogué, comme s'il ne devait son œuvre qu'à sa consommation de stupéfiants. Or, c'est loin d'être le cas. Oui, il a ingéré une quantité astronomique de produits, mais surtout dans le but de soigner ses phobies. Il a consommé beaucoup, mais alors beaucoup d'amphétamines. Mais pour pouvoir tenir le rythme des parutions des nouvelles, il fallait bien manger. D'après ses dires, il aurait consommé du LSD une seule fois et pris une seule fois de la mescaline. De plus, lors de son séjour en hôpital psychiatrique, le médecin qui l'a examiné dira qu'au-delà de ses phobies, son esprit est vif et réactif. Pour faire simple, il n'a pas besoin de drogue pour trouver l'inspiration. Pour Dick, deux questions vont guider ses œuvres. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est humain? Pour le paranoïaque qu'il était, c'était une question cruciale. Ce qu'il voit est-il le vrai monde ou une projection de quelque organisme qui voudrait le manipuler? Comme dans le Truman Show, libérément inspiré de sa nouvelle « Le temps désagrégé ». Les gens qu'il croise sont-ils de simples quidam ou des acteurs, voire des agents, qui cherchent à les nuire? Le monde n'est-il qu'une vaste simulation?
La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.
Quelle vérité?
Le fait que tu es un esclave, Néo.
Sommes-nous tous des programmes au sein d'un vaste réseau qui cherche à nous endormir pour mieux profiter de nous? Sommes-nous tous comme dans une demi-vie? La mort est-elle bien réelle ou est-ce juste la délivrance d'un sommeil vers un état de conscience totale? La question du réel, si elle est récurrente dans les romans, elle est particulièrement mise en avant pour ce qui est des adaptations cinématographiques tirées de son œuvre. Total Recall, Truman Show, Minority Report, Paycheck, Scanner Darkly, L'Agence, mais aussi pour les créations inspirées de l'univers dickien, comme on dit. Ghost in the Shell, Existence, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Inception, à plus ou moins grande échelle, la réalité est altérée, que ce soit lors d'un rêve modifié ou par un souvenir corrompu. La liste est longue des moyens déployés pour vous faire changer votre perception du monde. L'autre grand sujet de réflexion de Dick, qu'est-ce qui est humain? La réponse à cette question est encore moins claire que pour la précédente. Qui peut être qualifié d'humain? Déjà sur le plan physique, on dit quoi? Deux bras, deux jambes, une tête? Ok, exit les manchots, les cul-de-jatte. On va les resserrer. Et on dit qu'un humain, c'est un être vivant, représentant un ADN humain. On est bien avancé. Sachant qu'on partage 98% environ de notre ADN avec les chimpanzés. La marge de manœuvre se rétrécit beaucoup. Bon, on va dire qu'on parle là-dessus. Et les greffés, on en parle? Ils ont, si mes connaissances en médecine ne sont pas trop pourries, deux ADN, celui de leur conception et celui du greffon. si on part du principe que l'on ne dispose pas tous d'un séquenceur génétique sur soi, c'est le physique qui va nous dire si on a affaire à un être humain. Et si l'humain en question est une très bonne reproduction synthétique. Philippe K. Dick a un début de solution pour faire le distinguo. L'empathie. L'empathie, c'est la capacité de chacun à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire être capable de s'identifier à l'autre par la perception de ses émotions. Tout le monde, à des niveaux divers, est empathique. Empathie dont sont privées les intelligences artificielles. Sauf que Dick se met à mélanger les cartes, et certaines machines s'en voient dotées, voire même plus que certains humains. Ce qui va donner un livre et aussi un film qui vont porter Philippe à la postérité. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».
One more kiss, dear, one more sigh, only this, dear, is goodbye, for our love is such pain and such pleasure. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die. So in the springtime, like sweet memories, they will return as will I. Like the sun, this dear is goodbye, for our love is such passion, such pleasure. I will treasure until I die, like the song. Sky, and we soul.